Ambiance café pour te recevoir, Barbara. Comment ça va ?
Ça va bien.
Bah salut à toi, bienvenue dans l'émission Restez couché le matin. C'est la première fois que tu viens en plus, qu'on se rencontre, je crois.
Oui, c'est la première fois. Je suis venue il y a quelques années pour une autre structure, mais pour Urbaka, c'est bien la première fois.
Eh bien, aujourd'hui, on va discuter, tu l'as dit, de Urbaka, un festival d'art vivant, d'art de rue aussi, qui se tient à Limoges, et ce depuis 37 éditions. C'est la 37e qui a lieu cette année, du 25 au 27 juin 2026, et encore une fois, au Jardin de l'Évêché.
Oui, tout à fait. Du coup, tu l'as très bien dit, nous allons sur la 37e édition. Ce n'est pas rien, ça veut dire que cette association a une longue histoire. Et du coup, l'association Urbaka, son objet principal, c'est d'accompagner depuis plusieurs années la promotion et la diffusion des arts de la rue et de la création en espace public. On est vraiment engagé dans une culture ouverte à toutes et à tous. Ça, c'est très important pour nous. Et pour ce faire, nous organisons un festival donc éponyme qui s'appelle le Festival Urbaka, qui se déroulera cette année du 25 au 27 juin 2026. Et donc, nous aussi, parallèlement, tout au long de l'année, nous on soutient des compagnies, soit en accompagnant à la coproduction, à l'accueil en résidence, sur vraiment de l'écriture contemporaine et de la création artistique.
Ok, donc c'est pas juste de la programmation, entre guillemets. On ne fait pas simplement venir des gens pour qu'ils jouent, pour qu'ils se produisent. Il y a un accompagnement, il y a une production un peu plus globale. Et sur le long terme aussi, j'imagine, parce que c'est vrai qu'on parle de ce temps fort du 25 au 27, donc 3 jours pendant lesquels on transforme un petit peu tout le tour de la cathédrale. Mais sur le reste de l'année, Urbaka est aussi actif avec certaines compagnies, etc.
Oui, ça fait partie d'un des projets, effectivement, que nous mettons pas forcément en avant dans notre communication, mais c'est bien un projet de fond, car nous soutenons bien évidemment la création artistique et les compagnies et les équipes artistiques, notamment de Nouvelle-Aquitaine. Et pour ce faire aussi, nous faisons de la collaboration avec des structures culturelles qui sont liées aux arts dans l'espace public, notamment avec le CNAREP de La Rochelle, le Hangar Ataraxi, Graines de Rue, etc., etc. Et l'idée vraiment, c'est d'être un soutien pour ces équipes, sachant que nous sommes dans une période où c'est extrêmement fragile, où ces équipes, elles ont besoin de notre soutien. Et c'est vrai que Urbaka prend aussi cette part dans cette dynamique.
Oui, tout à fait. Alors, Urbaka, on peut aussi en parler, on va dire, en décrivant la programmation. Je pense qu'on donnera aussi le ton de ce à quoi ressemble le festival. La programmation, donc, a lieu d'un jeudi à un samedi. Déjà, moi, je trouve ça un peu, entre guillemets, étonnant de se dire qu'on commence un jeudi alors qu'on aurait pu faire vendredi, samedi, dimanche, comme beaucoup de festivals font, donc pour avoir un week-end complet. D'où vient cette volonté de se dire on va commencer en fin de semaine plutôt le festival ?
Et bien surtout, c'est qu'avant, il commençait dès le mercredi. Parce qu'on trouvait ça plutôt intéressant aussi que les soirs, parce que la programmation sur le jeudi et le vendredi commence qu'à partir de 18h, donc effectivement nous ne faisons pas de programmation dans la journée. Et puis depuis quelques années, il y a l'expérimentation, nous testons des choses. Donc l'année dernière, nous avions fait la journée du dimanche et on s'est rendu compte que c'était peut-être pas une journée qui était si dense et si intense qu'on aurait pu l'imaginer, à contrario des soirées du mercredi soir et du jeudi soir. Cette année aussi, nous avons réduit d'une journée le festival, malheureusement, car les aides que nous avons sont fragiles et du coup, nous avons été prudents pour pouvoir assurer en tout cas une programmation et de qualité et accessible à tous et à toutes.
Et qui est assez dense quand même, hein, parce que bien que ça commence un peu tard pour les deux premiers jours, il y a néanmoins beaucoup de choses à voir.
Oui, beaucoup de choses, oui, tout à fait. Ça reste toujours une programmation alors qui change de couleur au fil des années et au fil des protagonistes de l'association. Mais c'est surtout une programmation pluridisciplinaire où nous mettons vraiment l'accent sur ce qu'on peut voir dans les arts de la rue, car nous avons aussi encore et toujours un imaginaire là-dessus, alors qu'effectivement il y a beaucoup d'écriture contemporaine, de théâtre contemporain, de la danse, de la performance, du cirque, etc. Et du coup, nous avons décidé vraiment de montrer un panel et des choses que nous avons aussi découvertes et qui nous paraissent très intéressantes esthétiquement et artistiquement parlant.
Alors justement, si on pouvait faire un petit tour des spectacles, enfin pas forcément de tout nécessairement, hein, mais qu'on aille un petit peu mettre l'attention des auditeurs et auditrices sur ce qui peut les intéresser.
Bien sûr.
S'il y a des événements phares ou pourquoi pas des découvertes à faire pendant ce festival.
Bah, alors, avant tout, on essaie aussi d'être attentif aux équipes artistiques de Nouvelle-Aquitaine. Donc, dans ce cahier des charges, en tout cas, et ce que nous imposons dans le comité de programmation, c'est de valoriser en fait des équipes qui viennent de Nouvelle-Aquitaine. Donc, nous allons avoir notamment, par exemple, la compagnie Pan dans le ciment, qui va venir deux fois. Alors ça, c'est une compagnie, on va dire, coup de cœur. Le spectacle s'appelle Une, c'est un duo de danseurs. Mais la danse est une des disciplines artistiques, mais il y a aussi le théâtre, et c'est l'histoire de deux copains en fait qui vont se retrouver sur les marches en bas d'un immeuble, et ce qui représente un peu nous tous, notre trajectoire, c'est-à-dire qu'on a toujours eu un lieu de retrouvailles avec un ami, et sur ce lieu de retrouvailles, en fait, on raconte nos vies et nos péripéties. Et en fait, c'est un spectacle extrêmement dynamique, extrêmement dense, à la fois dans le corps et dans le texte, et musique live, électro. Un coup de cœur, c'est vraiment un coup de cœur. Moi, j'aime beaucoup ce spectacle, donc okay, je le conseille vivement. Et puis, il y a aussi autre chose qui est important sur cette édition, c'est que nous avons vraiment mis en œuvre aussi l'accessibilité pour les malvoyants aveugles et sourds ou malentendants. Donc, nous avons fait tout un travail de médiation et d'action culturelle avec l'association dans tous les sens pour pouvoir mettre en avant des spectacles accessibles à ces publics-là. Et aussi, nous avons pour l'ouverture du festival une batucada de personnes de déficients physiques ou mentaux qui ont créé une batucada. Donc, nous essayons de vraiment d'être à différents endroits. Et ça, c'est plutôt chouette. Et puis après, il y a plein d'autres spectacles encore à voir.
Ça tombe bien justement que tu parles de cette accessibilité qui commence à se faire de plus en plus.
Oui.
Je pensais justement vous questionner là-dessus parce que je vois qu'il y a un effort particulier quand même qui a été fait là-dessus. Avec, on peut rapidement en parler, mais aussi des visites tactiles de certains décors, de certaines choses, des souffleurs bénévoles. Enfin voilà, il y a vraiment un accompagnement aussi pendant les productions, etc. Pour que tout le monde puisse profiter, peut-être pas de la même manière et peut-être pas complètement non plus, mais en tout cas le plus possible de ce qui sera proposé pendant ce festival.
Oui, oui, oui. C'est vraiment, cette année, nous avons beaucoup travaillé dessus, sachant que nous sommes une toute petite équipe hein, sur le festival et sur l'association. Mais nous avons mis en place plein de choses en s'appuyant aussi sur ce qui existait déjà avec des structures culturelles, notamment l'opéra, le théâtre de l'Union. Et en fait, ça a fait tout à fait sens pour nous, sachant que nous sommes dans l'espace public, donc des espaces accessibles. Et on trouvait ça très intéressant de pouvoir mettre ça en place pour eux et vraiment rappeler que ce festival est accessible à tous et à toutes. Et donc on fait une grande communication là-dessus. Nous avons mis l'accent aussi sur nos plaquettes de communication en mettant en valeur tout ça. Et nous avons la chance aussi d'avoir des bénévoles qui ont répondu présents pour se former, pour faire du soufflage pendant les spectacles. Et on est vraiment très heureux et on espère que le public répondra.
Ça, c'est intéressant quand même que des bénévoles viennent se former au soufflage pour accompagner, etc. Enfin, c'est quand même une démarche qui va un peu plus loin que de simplement essayer de faire proposer quelque chose à d'autres, mais de s'investir aussi personnellement en tant que bénévole dans l'accompagnement. Donc, j'imagine que c'est aussi un temps en préalable de formation, puis ensuite sur les lieux du festival. Enfin, voilà,
ils vont se former la semaine prochaine, justement.
D'accord,
là,
ok.
Voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà d'être bénévoles et de faire cette formation, c'est que ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir utiliser cette formation et ce savoir et cette nouvelle compétence au service peut-être de leur secteur de professionnel ou personnel. Et du coup, c'est une manière aussi de considérer les bénévoles parce qu'il ne faut pas oublier que si le festival existe et que nous avons aussi 50 bénévoles qui œuvrent pendant et en amont du festival et je trouve ça super en fait de leur donner aussi une autre place que notre demande. Bien évidemment, c'est une demande au préalable de faire cette formation, mais c'est leur donner aussi une compétence qui pourra être utile pour d'autres structures et pour eux.
Oui, et pour eux, dans même la société, hein, que chacun puisse aussi évoluer un petit peu vis-à-vis de ce sujet-là qui est l'accessibilité, puisqu'on a, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, tous quelque chose à faire, tous un petit rôle à jouer au moins là-dedans. En tout cas, c'est un chouette accent qui est mis ici par le festival. Est-ce que tu serais capable de me dire combien ça représente à peu près de compagnies ou de spectacles en tout sur le festival ?
Oui, à peu près, nous avons une quinzaine de compagnies professionnelles et nous avons, je crois, 5 associations locales. Alors, l'année dernière, on en avait plus, mais il y avait le dimanche, donc pour ça. Donc, on reste quand même, on a réussi, malgré les incertitudes, à effectivement, tu l'as précisé, une programmation dense. Et donc, c'est quand même très bien. Déjà, on a pu maintenir ça et on est ravis. Donc, 15 compagnies professionnelles, ça commence à faire.
Ça commence à faire, et puis il y a moyen de quasiment voir tout. Hein. Si on suit bien le timing, normalement on ne manque pas de spectacle. Toutes les représentations en général se suivent à peu près.
Alors peut-être sur le samedi, il y a par exemple le collectif Les Femmes de l'Ouest Vapeur, qui est un spectacle qui est à 19h, qui est plutôt destiné, on va dire, aux jeunes adultes. Donc, il est, je crois, en même temps qu'un spectacle de cirque familial. Donc là aussi, aussi un petit peu pour pas diviser, mais en tout cas séparer un peu le public, parce que depuis quelques années, et ça c'est une réalité, la gratuité, parce qu'on a oublié de parler, mais le festival est entièrement gratuit.
Absolument.
Donc ça c'est très important, et nous constatons que cette gratuité fait énormément augmenter nos jauges, donc nous avons aussi un afflux du public depuis 3-4 ans qui est assez conséquent.
Il faut réussir à jouer un peu avec ça aussi.
Voilà. Et du coup de pouvoir aussi proposer des spectacles qui sont pas forcément tout le temps tout public, c'est important, parce qu'il y a des textes qui sont importants, et notamment sur Les Femmes de l'Ouest Vapeur, qui parlent de le parcours de le corps d'une femme, c'est très très drôle, hein, c'est à la fois c'est très inclusif, ça n'exclut pas les autres genres, mais ça vient en tout cas illustrer que le corps d'une femme est quand même très éprouvé tout au long de sa vie et en fonction de ses choix aussi, donc c'est assez drôle et assez émouvant, mais effectivement pour des enfants ce n'est pas adapté.
D'accord, très bien. Justement, on parle de ce lieu dans lequel on essaye de peut-être guider un peu le public, etc. C'est un lieu immense, c'est le jardin de l'évêché quand même, et tout autour. Ça veut dire que vous investissez par rapport aux années précédentes toujours les mêmes espaces, à savoir le parvis de la cathédrale, la fontaine, ou est-ce que vous souhaitez investir d'autres espaces ? Est-ce que vous en investissez moins ? Comment est-ce qu'on s'approprie un lieu comme celui-ci ?
Il y a encore 10 ans, Urbaka n'était pas centralisé dans les jardins de l'évêché. Urbaka était plutôt dans tout le centre de Limoges. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Mais depuis les attentats, etc., les choses sont devenues un peu plus contraignantes d'exploiter l'espace public, même si nous aimerions plus. Donc chaque année, effectivement, nous exploitons les jardins de l'évêché parce que nous connaissons ces espaces et nous connaissons les contraintes aussi. Car, en fait, sous les jardins, en fait, il y a des cavités. Donc le poids est très important. Donc là aussi, techniquement, il y a quand même quelques contraintes. Et quelques savoirs et compétences à avoir. Mais personnellement, moi, j'aimerais explorer d'autres choses. Et peut-être qu'on y arrivera. Pourquoi pas. Mais actuellement, et puis aussi avec le réchauffement climatique, nous avons de l'ombre. Donc, c'est très important aussi, parce que l'année dernière, nous avons eu une canicule. Nous étions très contents de pouvoir avoir des alternatives et des solutions. Donc, c'est vrai que ces espaces-là sont quand même propices et sont plutôt beaux aussi.
Bah oui, c'est très accueillant. Oui. C'est quand même quelque chose, hein, de pouvoir profiter des jardins de l'évêché d'un point de vue artistique. Ça se fait de plus en plus. On pense aux bamboches botaniques qui font des choses là-bas. On pense aussi à ces associations de Limoges pour le jeu, le Fluge, qui installe aussi un petit festival de jeux en plein air, etc. Donc bon, voilà, c'est vrai que le jeu de société, le jeu commun comme ça, là, prend beaucoup de place ces dernières années et grandit, et donc s'installe aussi là. L'art de rue est quelque chose qui est très vivant à Limoges, malgré tout. On peut aussi penser à la compagnie du FUN qui récemment, enfin, je sais pas si c'est une compagnie, mais ce festival du FUN qui essaye de faire vivre. Graines de rue continue, tant bien que mal, on va dire, à faire vivre leur festival malgré les difficultés, un peu de la même manière qu'Urbaka. Donc, il y a un public qui est au rendez-vous aussi.
Alors, le public, ça, il est même pas questionné, car si nous parlons en tant que jauge, nous remplissons largement cette mission-là, cette mission-là. Sauf que les arts de rue, parce que c'est plutôt un secteur, c'est pas une discipline, et sont encore mal reconnus. Voilà, on travaille dessus. On travaille avec la fédération Grand Rue, donc c'est une fédération des arts de rue et de l'espace public de Nouvelle-Aquitaine. Donc nous valorisons et nous savons, nous pertinemment les acteurs, l'essence et le bienfait d'être dans l'espace public, parce que au contraire nous cassons en fait les barrières qu'il peut avoir dans l'espace public. Il peut se passer un milliard de choses, des rencontres inopinées, arrivées par hasard. Enfin, donc nous savons que nous avons beaucoup de cartes à jouer.
Oui.
Et on est très très heureux d'être ces acteurs-là, et on aimerait d'être un peu plus reconnu dans ce que nous faisons et dans les objectifs que nous avons par rapport à l'accessibilité à la culture, du moins.
Carrément. Et bah, peut-être qu'on pourrait terminer en donnant un aperçu rapide de ce qu'on retrouve, en tout cas de manière un peu thématique, dans ce festival, hein, du théâtre de rue certes, mais on a aussi du cirque, du théâtre musical, des ateliers pour les plus jeunes, de la danse, des marionnettes. Mmh. Est-ce que j'oublie des choses? Il y a de la musique, juste musique. Il y a du clown. Enfin voilà, c'est assez varié, ce qui fait que je pense que tout le monde y trouvera son compte. Hein.
J'espère.
Dans ce festival. Voilà, avec donc la présence de ludothèques, d'ateliers, du conservatoire de Limoges. Bref, ça fait aussi jouer les liens, on va dire, culturels locaux.
Oui.
Et c'est une très bonne chose, puisque justement, tisser des liens culturels, comme tu le disais, à Limoges, c'est un bénéfice dont on peut se gargariser. Car on a une vie culturelle très active, contrairement à ce que certains peuvent penser, et qui ne demande qu'à éclore. Merci à toi, Barbara.
Merci beaucoup.
On n'a rien oublié. On rappelle évidemment que le festival a lieu en juin du 25 au 27. C'est entièrement gratuit et ce sera du côté des Jardins de l'Évêché. On croise les doigts pour qu'il fasse beau, comme chaque année, bien sûr.
On aimerait beaucoup.
Voilà, et puis on se retrouvera à partir de ce jeudi 25, là-bas, j'espère.
Oui, avec plaisir.
Salut, ciao.